100% d'Europe, Juliette Rangeval.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories. Bonjour, les jours passent, plus que 10 officiellement avant la date de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais au fil des complications, des rebondissements, les options se multiplient, les scénarios se bâtissent aussi rapidement qu'ils s'écroulent. Et la date du Brexit n'est plus si certaine. Les jours passent. Et les Britanniques sont de plus en plus exaspérés. Notre correspondante s'est rendue dans le nord-est de l'Angleterre, à Grimsby, un port de pêche qui a très majoritairement voté pour le Brexit. Ras-le-bol sur le marché aux poissons, c'est un reportage de Marie Billon.
Au marché de Grimsby, on en a marre du Brexit congelé. Ras-le-bol d'un accord réchauffé, on veut des nouvelles fraîches. Et tant pis s'il y a quelques arêtes et que c'est difficile à avaler. Gary Caddy de Garfish Export Limited exporte ses sébastes et ses poissons chats vers la France, principalement Boulogne-sur-Mer.
Pour l'instant, le Brexit, ça ne veut rien dire pour moi, parce qu'on ne sait rien. On attend et on attend. Le risque, c'est que je rencontre des problèmes aux frontières. Pour l'instant, on peut faire passer la marchandise librement. Aucun droit de douane ne nous est imposé vers le continent. Mais s'il y a de nouvelles régulations, plus de papiers à remplir, cela va retarder les livraisons et peut-être compromettre la fraîcheur du poisson.
Gary n'a pas voté en 2016, il n'était pas dans le pays, mais il n'est pas un partisan de la sortie de l'Union européenne. Nelson Slight de Nelson Grimsby Limited, lui, a voté contre le Brexit. Il vend du poisson pêché en mer d'Irlande, destiné au marché britannique principalement.
Je n'en peux plus, je n'en reviens pas du niveau d'incompétence de nos députés et de nos fonctionnaires. Ça doit être une blague. Mettez-vous au travail. Arrêtez de retarder l'heure de la décision à la semaine prochaine, celle d'après ou l'année suivante. Nous voulons savoir ce qui se passe aujourd'hui. J'espère qu'il n'y aura pas de frontières sur l'île d'Irlande. S'il y en a une, je ne pourrai peut-être plus avoir de poissons. Alors j'espère que cette histoire de backstop, ça va marcher. Mais bon, je ne suis que commerçant, la politique me rend fou de toute façon. Politics drive me potty.
En seulement quelques secondes, plusieurs caisses du chargement de Nelson sont vendues aux enchères. Ainsi, les décisions sur le Brexit pouvaient être aussi rapides. Le problème, c'est que même ceux qui ont voté pour la sortie de l'UE veulent tout et son contraire. Patrick Salmon, le propriétaire de Alfred L.B. Smokehouse, un fumoir à saumon, fait son marché et sa liste de courses est longue.
Le poisson est un produit périssable. Le Royaume-Uni, et Grimsby en particulier, compte sur le poisson norvégien transporté via l'Europe. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est continuer à pouvoir nous approvisionner sans souci. Des frontières ouvertes pour que rien ne gêne le transport, et puis pas de retard aux douanes. Il faut aussi qu'on retrouve une livre sterling stable, parce qu'elle est faible en ce moment à cause de l'incertitude, ce qui affecte le prix du poisson. On veut un marché commun, en fait. On veut faire du commerce, mais sans être sous la dictature de Bruxelles. Si le Brexit se passe bien, on pourrait être un modèle pour la réforme de l'UE. C'est Bruxelles qu'on n'aime pas, pas l'Europe.
Et c'est pour ça que la ville de Grimsby a demandé à recevoir le statut de port libre pour pouvoir faire du commerce sans encombre avec qui elle veut. Le port voisin d'Immingham serait compris dans la demande, car c'est là que les bateaux de pêche arrivent avant que leur chargement ne soit amené à Grimsby. Martin Bauer est le directeur du marché.
C'est n'importe quoi. Ceux qui ont suggéré ça ne comprennent pas comment le marché fonctionne. Pour que le commerce fleurisse, il faut qu'on ait un statut particulier. Il faut qu'on soit tous logés à la même enseigne. Contrairement à ce que les gens pensent, le problème pour Grimsby, ça n'a pas été la politique commune de la pêche européenne. Ce furent les guerres de la morue de la fin des années 70 et du début des années 80. Quand l'Islande a étendu ses limites territoriales, Grimsby a perdu son statut d'important port de pêche parce que nos vaisseaux n'avaient nulle part où aller. Nous n'avons plus de bateaux, mais nous nous sommes adaptés et nous sommes restés une plaque tournante du marché aux poissons, un endroit où on le prépare pour le marché.
Si Grimsby a voté à 70% pour le Brexit, dit Martin, c'est bien parce que la communauté a conservé une image idéalisée du pêcheur anglais.
En tant qu'île, la marine et la pêche sont des sujets qui nous tiennent très à cœur. La pêche représente 0,5% de notre PIB, mais en amplitude émotionnelle, elle est tout en haut de la liste. C'est l'histoire de nos ports qui crée un certain respect pour nos aux pêcheurs. Alors, les gens ont pensé qu'en votant pour le Brexit, ils exprimaient leur soutien aux pêcheurs. Mais ce n'est pas le cas.
Martin n'est cependant pas inquiet. Si la ville de Grimsby a pu s'adapter à travers les ans, elle le fera encore si elle le doit. Mais elle espère que ça se fera avec moins de casse que la dernière fois.
Je ne veux pas me faire ficher, estampiller, enregistrer, ni me faire classer, puis déclasser ou numéroter. Ma vie m'appartient.
La ville idéale ou Big Brother. Rendez-vous à Mannheim, en Allemagne, dans le quartier Benjamin Franklin, quartier d'un nouveau genre, sur un ancien site de l'armée américaine. La ville a décidé d'en faire un laboratoire de la ville du futur, la Smart City, où le numérique est mis au service de l'environnement et du vivre ensemble. C'est un reportage de Willowen Munoz-Boileau.
C'est encore un immense chantier de 144 hectares, soit l'équivalent de 200 terrains de foot. Au milieu des grues et des pelleteuses, les premiers immeubles, des cubes de 3 étages, accueillent déjà les premiers habitants comme Sarah. Cette mère de famille a emménagé en octobre dernier.
On voulait acheter un appartement à la fois proche de la nature et de la ville pour les enfants. Celui-ci nous a plu. Ce n'est qu'ensuite qu'on a découvert le super concept qui se mettait en place ici.
Ce concept, c'est celui du Blue Village, un concept imaginé en 2011 par la ville de Mannheim après une consultation citoyenne. Christian Specht, premier adjoint au maire chargé du numérique.
Le concept du Blue Village, c'est par exemple des panneaux solaires sur votre toit qui vous alimentent en électricité et en chaleur et qui, en même temps, avec l'énergie produite, permettent de recharger la voiture électrique que vous partagez avec d'autres résidents. Le numérique joue un rôle central là-dedans. Il permet d'organiser non seulement l'approvisionnement en énergie, mais aussi la mobilité, l'habitat et le vivre ensemble. Et c'est ce que nous voulons démontrer à Benjamin Franklin.
L'objectif, c'est de créer un quartier qui offre une meilleure qualité de vie, plus d'espace vert, moins de voitures, donc moins de CO2 et aussi moins coûteux pour ses habitants. Pour cela, la ville a imaginé un vaste réseau de voies piétonnes et de pistes cyclables, mais aussi un système de partage et de location de véhicules propres. Et c'est l'urbaniste Oliver Leicht et son équipe qui ont développé cette offre. Pour en faciliter l'accès aux résidents, ils ont créé une application de quartier.
On a commencé avec 4 voitures électriques. À la fin, il y en aura 40, 10 motos électriques et 5 vélos cargo. Il y a aussi du covoiturage et d'ici quelques mois, il y aura même une navette sans conducteur d'une capacité de 8 personnes. On travaille à connecter le tout au réseau de transport public.
Le tout pour un forfait de 40€ par mois. Alors, efficace, à en croire Oliver Leicht, certaines familles se sont carrément débarrassées de leur voiture. Le forfait leur coûte tout simplement moins cher et leur permet de réduire leur empreinte carbone. Mais tous ne sont pas encore convaincus. Jacob a emménagé avec sa femme et son fils en septembre.
On a reçu beaucoup d'infos sur le sujet, mais je n'ai pas encore utilisé l'application. J'ai ma propre voiture, donc pour moi ça ne vaut pas le coup. Si on a emménagé ici, c'est surtout parce que le loyer était moins cher qu'en centre-ville.
D'autres résidents attendent que l'ensemble des infrastructures soient réalisées pour se prononcer sur la réussite du projet. Mais au-delà de l'offre de mobilité, l'application a été conçue comme une plateforme d'échange où les résidents peuvent créer des groupes pour se retrouver selon leurs intérêts. Et ils pourront aussi bientôt profiter de services à la personne du type relais-colis et conciergerie. Tout cela fait partie du concept de Smart City, dont le but est aussi de créer un quartier mixte. Laura Todaro, responsable communication de la société MVSP chargée du projet.
On veut attirer tous les types de profils. C'est pour ça qu'on a toutes sortes d'offres, des logements sociaux, penthouse de luxe. On veut attirer aussi bien des familles que des couples de personnes âgées, n'exclure personne. On veut permettre aux personnes âgées de pouvoir vivre dans le quartier. C'est pour ça qu'on développe des services et des activités locales, mais aussi un système d'entraide entre voisins et des projets de coopération.
Et tout cela passera bien sûr par l'application. Benjamin Franklin compte aujourd'hui 700 habitants et devrait en accueillir 9000 d'ici la fin des travaux en 2025. S'il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, le projet est ambitieux par son approche globale. Pour la ville de Mannheim, le quartier sert de laboratoire au concept de Blue Village, un concept qu'elle pourrait bien étendre à d'autres parties de la ville en cas de succès.
Alors dans le reportage de Willowen Munoz, on l'entend, hein, pour faire fonctionner ce modèle de Smart City, il y a une application, beaucoup de données personnelles. On accueille Martin Drago, vous êtes juriste à la Quadrature du Net, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de données personnelles qui sont partagées, qui sont mises en commun, ça pose pas des problèmes, ça, de sécurité?
Oui, évidemment, alors il y a plusieurs thèmes qui sont intéressants, je trouve, dans ce reportage. Premièrement, c'est l'objectif poursuivi. En fait, on retrouve dans la Smart Cities, et comme dans la Safe Cities, donc la Smart Cities a plutôt la tendance sécuritaire, on retrouve cet objectif un peu fantasmé de ville idéale, de ville parfaite, où tout va se faire avec une sécurité parfaite et tout le monde sera très content. Et cette ville parfaite, à chaque fois, elle passe par l'interconnexion. On retrouve souvent le terme de cerveau unique pour une ville. Et donc, toutes nos données de nos activités vont se retrouver, en fait, centralisées dans ce cerveau unique, dans cette plateforme unique.
C'est quoi le danger? Parce que c'est plutôt pas mal, on pourrait se dire. Et alors, on vit mieux, justement.
Alors, il y en a plusieurs de dangers. Alors, effectivement, comme vous le dites, il y a un problème de sécurité. Toutes ces données vont se retrouver dans une même base de données, hein, parce que, justement, l'intérêt, c'est la centralisation. Et le problème de la base de données, en fait, c'est la sécurité de la base de données.
Qui peut être piratée.
Nous, souvent, ce qu'on entend, hein, c'est pas comment elle va être piratée, c'est quand elle va être piratée. Hein, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, Facebook, etc. Ils nous disent qu'ils mettent énormément d'argent dans ces bases de données pour sécuriser ces bases de données, mais en fait, il y a toujours une faille. Et donc, justement, centraliser toutes ces données d'une même ville dans une seule base de données, c'est vraiment risquer que l'ensemble des données des citoyens. Et là, dans le reportage, on parle quand même des moyens de transport, on parle de la consommation énergétique, on parle des réunions entre citoyens. Donc, toutes ces données-là, on parle de données qui sont en fait personnelles parce que elles regroupent plein d'activités. Et donc, en les interconnectant, on peut deviner l'identité des gens. Et ensuite, en les regroupant dans une seule base de données, il y a un vrai risque de faille. Et ça arrive tout le temps en ce moment, de fuite des données personnelles des gens dans le réseau, quoi.
Est-ce que le problème, c'est pas aussi que toutes ces données personnelles dans des collectivités se retrouvent finalement données à des sociétés privées qui vont souvent gérer les différents services qui sont proposés aux citoyens?
Exactement, ouais. C'est aussi un des thèmes qu'on retrouve beaucoup dans ce type de ville. C'est en fait comment vont être utilisées ces données. Alors vous parlez de sociétés privées, il faut aussi parler du public, hein, de l'autorité. Si par exemple si c'est la mairie qui s'en occupe, on va quand même donner un nombre de données personnelles à une autorité administrative, la mairie ou la région, qui vont permettre en fait une surveillance accrue de la population. On va pouvoir savoir comment vous vous déplacez, quel type d'énergie vous utilisez, comment, etc. Donc ça, c'est très intéressant. C'est finalement, par l'attrait d'une ville idéale et fantasmée, on accrue la surveillance de la population pour l'autorité. Mais effectivement, à chaque fois dans le Smart City et un Safe Cities, on retrouve aussi ce principe de délégation de politique publique, donc de la gestion d'une ville, a souvent un logiciel développé par une entreprise privée. Et après, qu'est-ce qu'elles vont faire de ces données personnelles? Ça, c'est la vraie question. Ouais.
Malgré ça, et parce que justement, tout le monde a envie de mieux vivre en ville, les smart cities se développent et les safe cities aussi. Alors, vous le disiez, hein, c'est des smart cities qui sont tournées vers la surveillance, hein, plus exactement.
Exactement, ouais. Alors, la safe city, on parle souvent de la première brique de la smart city. C'est-à-dire, en fait, nous, on le définit comme l'usage policier des nouvelles technologies. Hein. Dans ce cadre justement de ville idéale parfaite, le premier fantasme qu'ont souvent les autorités et les entreprises avec qui elles collaborent, c'est une ville parfaitement sûre. Et donc ça va passer par des nouvelles technologies comme la reconnaissance faciale, comme des caméras intelligentes. C'est-à-dire les caméras intelligentes, c'est plus seulement la vidéosurveillance, c'est la nouvelle couche qu'il y a derrière. On va détecter un cri, on va détecter, donc avec des micros, on va détecter un mouvement de foule, un geste brusque. On va pouvoir repérer tout le temps les plaques d'immatriculation des voitures. Et il va y avoir, et ça c'est très lié à la Smart City aussi, l'utilisation de toutes les données, hein, le big data, on dit, de toutes les données issues d'une ville pour gérer la ville et puis prévoir ce qui peut se passer. C'est notamment le thème de la police prédictive. C'est-à-dire qu'on va dire, ah ben en fait, avec toutes les données qu'on a, il y a un risque d'incident dans tel quartier. Donc en fait, il vaut mieux de mettre telle patrouille à l'avance dans ce quartier pour pouvoir prévenir du risque dont on sait, on est persuadé que ça va arriver.
Alors ça, c'est quelque chose qu'on a vu se développer dans beaucoup de pays d'Europe du Nord ou au Royaume-Uni. On a beaucoup entendu toutes ces histoires. En France, on commence à voir beaucoup de collectivités locales, hein, qui développent des systèmes à Nice, à Marseille, à Saint-Étienne. C'est quelque chose sur lequel on vous alerte à la Quadrature du Net dans votre association?
Alors nous, on fait beaucoup de demandes de documentation administrative, c'est-à-dire par la presse locale, on va entendre parler, et souvent il n'y a pas beaucoup de bruit, hein, on va entendre parler, on a entendu la semaine dernière des micros à Saint-Étienne, un projet de reconnaissance faciale à Nice, ou alors l'Observatoire de la Tranquillité Publique à Marseille, donc qui est une espèce, même chose, de plateforme regroupant toutes les données de la ville pour pouvoir la gérer d'un seul endroit. Donc non, je dirais pas tellement qu'on nous informe, nous on essaye justement, on se rend compte que pas grand monde n'en parle. et pourtant que c'est extrêmement dangereux, que c'est extrêmement liberticide, que personne ne réfléchit vraiment aux conséquences de développement, et du coup c'est nous qui devons nous informer et informer les autres.
Et pourtant en France, il y a la CNIL, qui est la Commission Nationale Informatique et Liberté, il y a une loi aussi qui date de 1978, ça suffit pas, ils font pas leur boulot, vous dites ou...
En fait, c'est intéressant parce que justement la CNIL, on la trouve un peu dépassée en fait, hein, par le pullulement dans tout notre territoire de ce type de safe cities, reconnaissance faciale, etc. Il faut voir qu'effectivement, il y a la loi de 78 hein, sur la vie privée qui a été modifiée et par le règlement général sur la protection des données hein, l'année dernière, entrée en vigueur l'année dernière, le RGPD. Et en fait, depuis l'entrée en vigueur du RGPD, la CNIL a surtout un pouvoir a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est plus à l'autorité administrative de déclarer et demander l'autorisation, notamment ce qui concerne la surveillance des données biométriques, hein, c'est-à-dire notre visage, notre voix, etc. C'est plus un pouvoir de contrôle a priori, mais c'est un pouvoir de contrôle a posteriori. Ce qui laisse justement se développer un peu toutes ces expérimentations, surtout que les autorités vont souvent utiliser le terme d'expérimentation. À Nice, c'est souvent ce qu'on entend, c'est-à-dire « ah oui, mais c'est juste un test ». Et parce que c'est un test et parce que c'est une expérimentation, on estime qu'on est un peu en dehors des lois parce que, bon, en fait, on teste juste pendant 6 mois. Et la CNIL, elle a appelé un débat en octobre, elle a fait un communiqué en disant « ah là là, ça se développe un peu de tous les côtés, il faut faire attention ». La CNIL, elle a fait des tweets pour dire « ah, vous avez été un peu trop vite, Nice a été un peu trop vite, on aurait dû plus travailler ». Et ça, ça fait un peu peur parce qu'en fait, on voit que la CNIL elle est dépassée. Je pense qu'il y a un manque de moyens. Hein. Déjà, nous, on avait vu avec elle, il y a 2-3 personnes qui bossent dessus à la CNIL parce qu'elle est dépassée par d'autres problèmes avec le RGPD. Et puis parce que elle n'ose pas ainsi faire un peu plus que des communiqués et des Twitter sur le développement de ses projets.
Merci Martin Drago.
Je vous en prie. eBay, SoundCloud, Google, Microsoft, Apple, Twitter, YouTube, Uber, Facebook, Instagram, Netflix, IBM.
La liberté de l'Internet en recul en Turquie. Les autorités ont fait bloquer près de 3000 articles par la justice l'an dernier et elles cherchent désormais à reprendre en main les services de vidéo en ligne à Nandlower.
C'est un bilan d'autant plus alarmant qu'il est incomplet. L'an dernier, la justice turque a ordonné le retrait d'au moins 2950 articles et contenus journalistiques diffusés sur Internet. Il faut ajouter à ce décompte toutes les publications rendues inaccessibles par une décision administrative, publications dont on ne connaît pas le nombre. Corruption, questions kurdes, critiques à l'égard de personnalités politiques, religieuses et autres célébrités, violations des droits humains, les tabous se multiplient et la censure frappe de plus en plus souvent le journalisme d'investigation, constate Erol Önderoğlu, représentant de Reporters sans frontières en Turquie.
Imaginez des grandes entreprises chargées de la construction du 3e aéroport d'Istanbul, mises en cause dans des affaires de malversation, de corruption, etc. Cela est perçu par les juges de paix en Turquie au nom d'une stabilité politique défendue par le régime d'Erdogan.
Outre de nombreux sites d'information critique, les autorités n'ont pas hésité à bloquer ponctuellement l'intégralité de plateformes comme Blogspot ou SoundCloud. L'encyclopédie en ligne Wikipédia est inaccessible depuis avril 2017. Les réseaux sociaux sont étroitement surveillés. La Turquie demande plus de retrait de contenu à Twitter que n'importe quel autre pays et on ne compte plus les internautes jetés en prison pour un post. Censée veiller au respect de la liberté d'expression, la Cour constitutionnelle ne joue plus son rôle, dénonce Erol Önderoğlu.
Il faut rappeler que 2 membres de la Cour constitutionnelle ont été emprisonnés juste après la tentative de coup d'État en juillet 2016. La Cour constitutionnelle aurait adopté une habitude d'accumuler ces dossiers sensibles et à ne rendre aucune décision depuis des années. On prend désormais plus le risque d'affronter le gouvernement, le président Erdogan. Sinon, on sait très bien que ça va aller mal.
Une fois n'est pas coutume, en septembre 2018, la Cour constitutionnelle a tranché en faveur du quotidien d'opposition Cumhuriyet, qui contestait le blocage d'un article portant sur les pratiques clientélistes de dirigeants locaux. Une décision toutefois peu susceptible de faire jurisprudence dans un pays où la justice est de plus en plus verrouillée par le pouvoir politique.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous nous retrouvez sur RFI.fr, podcast Accent d'Europe et sur les réseaux sociaux également. Et bien sûr ici demain à la même heure.